Comme vous le savez, cela fait maintenant plusieurs années que j'enquête sur la mystérieuse secte du diable que j'avais découverte lors d'une exploration urbaine dans les catacombes interdites de Paris. Vous pensiez que c'était fini ? Vous pensiez qu'il n'y avait plus rien à découvrir à propos de cette secte ? Eh bien, détrompez-vous, ce n'était que le début. Au cours de ces derniers mois, j'ai enquêté sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, mais dont on n'entend pas parler dans les médias. Et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une nouvelle enquête terrifiante et mystérieuse. Alors j'ai besoin de votre soutien. Donnez-moi de la force en vous abonnant au podcast et en le partageant au maximum. Disneyland, ça vous dit quelque chose ? Princesse, conte de fées, expérience magique, voilà ce à quoi nous pensons quand l'on parle de Disneyland. Mais au-delà des apparences, savez-vous qu'il se passe des choses très étranges là-bas ? Je parle du parc qui se situe en Californie. Il s'agit du premier parc créé par Walt Disney en personne. C'est le parc original et l'un des plus fréquentés au monde. Chaque année, des millions de touristes passent les portes de ce royaume enchanté pour passer une journée magique et s'amuser en famille. Mais il y a des événements très troublants qui s'y passent et que la direction du parc voudrait garder secret. Savez-vous que chaque année, plus de 200 enfants disparaissent et ne sont jamais retrouvés dans le parc Disneyland ? Je ne parle pas là d'enfants qui perdent leurs parents dans la foule et qui les retrouvent ensuite. Non, je parle d'enfants qui disparaissent et qui ne sont jamais retrouvés. 200 enfants par an. C'est énorme. Ce n'est donc pas un cas isolé. Mais alors, pourquoi nous en avons jamais entendu parler dans les médias ? Vous allez comprendre que c'est une affaire bien plus grave et inquiétante que vous pouvez imaginer. Tout a commencé avec le témoignage d'une famille que j'ai trouvée sur Internet. Elle déclare avoir voulu passer une journée magique au parc Disneyland, mais qui s'est transformée en véritable enfer. Tout se passait bien quand soudain, en plein milieu de l'après-midi, ils perdent l'un de leurs enfants. Dans la foule, pris de panique, ils cherchent pendant plusieurs heures en vain. Ils décident donc de se rendre au bureau des enfants perdus, avec l'espoir de le retrouver assez rapidement. Mais c'est un échec. Encore des années après, leur enfant est toujours porté disparu. La famille déclare avoir reçu une grosse somme d'argent de la part de Disneyland pour ne pas parler de cette affaire dans les médias. C'est donc un témoignage anonyme sur Internet. Est-ce une histoire vraie ou bien fausse ? On peut en douter. Jusqu'à ce que l'on trouve plein d'autres témoignages qui racontent exactement la même chose, dans les mêmes circonstances. Quand on cherche bien, il y a beaucoup, beaucoup de familles dans la même situation, ayant perdu un de leurs enfants lors d'une journée dans ce célèbre parc d'attractions. Tous disent avoir reçu un dédommagement et signé un contrat de confidentialité pour ne pas en parler dans les médias. Mais pourquoi une telle pression ? Pourquoi Disney ne veut pas que cela se sache ? Et surtout, pourquoi ces enfants sont disparus et ne sont jamais retrouvés ? Où sont-ils ? Et qui se cache derrière tout ça ? J'ai donc décidé de mener mon enquête. Il y a quelques youtubeurs américains qui parlent du sujet, mais ils sont peu nombreux. Et les vidéos ne restent pas bien longtemps et se font très vite supprimer. Je me rends compte que c'est un sujet très sensible et très secret. Si la moindre information est autant censurée, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de plus grave qui se cache derrière tout ça. Et ça me donne envie d'en savoir plus, pas vous ? J'ai essayé pendant plusieurs semaines de rentrer en contact avec des familles qui déclarent être victimes de ces disparitions étranges. Ça n'a pas été simple car elles témoignent de façon anonyme sur Internet. Mais de fil en aiguille, j'ai quand même réussi à en contacter une. Nous avons discuté par messagerie cryptée pendant plusieurs semaines. J'ai dit que j'étais un Français qui avait un podcast et que j'enquête sur des phénomènes paranormaux et des légendes urbaines, que j'avais pris connaissance de cette affaire et que je voulais en savoir plus. On a tout de suite eu un bon feeling et avons beaucoup parlé de cette histoire. Cette personne m'a dit qu'elle et d'autres victimes faisaient une enquête et qu'elle avait trouvé quelques éléments très troublants. Ils se sont réunis dans une sorte d'association de victimes de ces enlèvements dans le plus grand secret pour pouvoir mener une enquête plus approfondie et réunir des preuves. Selon les informations qu'ils m'ont données, ils auraient découvert des similitudes troublantes dans toutes les disparitions. Le même mode opératoire, le même coin du parc, les mêmes jours et à la même heure. Cela leur a fait penser que c'était donc quelque chose d'organisé, qu'il devait y avoir un réseau derrière tout ça. Et ils ne croyaient pas si bien dire. Ils ont remarqué qu'il y a un homme en particulier qui se rend très souvent sur le parc, pratiquement tous les jours, seul, et qu'il passe son temps à se promener sans faire les attractions ou autres activités. Il a un comportement assez étrange. Ils sont très nombreux à parler de cet homme. Il semblerait qu'il y ait un rapport avec tous ces enlèvements. Ils ont même trouvé des photos de cet homme et me les ont envoyées. En effet, c'est un homme qui paraît étrange. Il est tout d'abord très grand. Je dirais qu'il fait pratiquement 2 mètres de haut. Il est plein de tatouages assez étranges, qui semblent avoir des significations particulières. Il est muni d'une casquette et de lunettes de soleil, et avec des habits noirs, assez discrets. Cet homme aurait donc été vu de très nombreuses fois dans le parc Disneyland, comme s'il était à la recherche de quelque chose. Ils n'ont pas de preuves concrètes que c'est lui qui a enlevé les enfants, mais ils en sont tous persuadés. Mais il y a quelque chose qui fait douter tout le monde. C'est qu'il ne doit pas être seul pour pouvoir faire cela. Car avec le nombre de disparitions qu'il y a, il doit forcément avoir des complices. Certains d'entre eux ont donc décidé d'aller sur place pour espionner et suivre cet homme pour voir ce qu'il faisait. Ce n'était pas chose facile car il semble très méfiant et regarde toujours autour de lui pour voir si quelqu'un le suit. Il semblerait que l'homme passe régulièrement des appels téléphoniques d'une courte durée, de seulement quelques minutes. La personne n'a pas réussi à entendre ce qu'il dit au téléphone, mais il avait l'air assez stressé et très sérieux, comme s'il recevait des ordres de quelqu'un d'autre. Plus étrange encore, le comportement très bizarre de cet homme n'a pas alerté la sécurité de Disneyland. Cela fait des années qu'il se balade dans le parc tous les jours et cela n'a alerté personne. Il a même été vu passer par des portes secrètes pour aller dans des parties du parc, normalement interdites au public. Et c'est là que cette affaire devient encore plus étrange. Selon ce que rapportent toutes les victimes, il semblerait que cet homme ait un lien avec la direction du parc et qu'il y ait tout un réseau associé à ses disparitions. Il n'agirait effectivement pas seul et serait sous les ordres de personnes beaucoup plus influentes, très haut placées. Ce serait pour cela que personne ne l'arrête et qu'il le laisse faire dans le parc, car il serait associé avec la direction du parc. Ce serait tout un réseau organisé qui fonctionne ensemble, avec des complices. Je précise que toutes ces informations me sont rapportées par les victimes. Je n'ai moi-même pas vérifié ces informations. Donc, si on résume, il y aurait un réseau qui enlève des enfants, qui est affilié avec la direction du parc, et qui serait même affilié avec des politiques. Ce serait une véritable affaire d'État, et c'est pour cela que ça ne sort pas dans les médias et que les victimes signent tous des contrats de confidentialité et reçoivent une grosse somme d'argent pour ne pas ébruiter les enlèvements. Et ils vont encore plus loin. Ils disent que ce serait une véritable secte qui serait à la tête de ce réseau. Et c'est là que quelque chose m'a mis la puce à l'oreille. Quand ils ont commencé à parler de secte, de rituels et de sacrifices, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la secte du diable dont j'ai découvert l'existence lors de mes nombreuses explorations urbaines, racontées dans les précédents épisodes. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes entre ces deux histoires, entre mes découvertes et les leurs. Étant donné que la secte du diable est un réseau présent partout dans le monde, il se peut qu'il y ait un rapport avec les disparitions à Disneyland. Je ne croyais pas si bien dire. Au fil de notre conversation, quelques détails m'ont enlevé les doutes que j'avais. Quand ils ont prononcé un nom en particulier, Yaya, ça vous rappelle quelque chose? C'est ce nom que j'ai retrouvé écrit sur les murs des catacombes de Paris à plusieurs reprises. J'avais déjà enquêté à ce sujet. C'est le démon qui se cache derrière la secte du diable. Je leur ai donc fait écouter mon podcast pour qu'ils découvrent toutes mes histoires et mes découvertes lors de mes enquêtes. On a pu alors mettre toutes nos découvertes en commun et faire un rapport entre ces deux affaires. Il semblerait donc que la secte du diable soit derrière ces enlèvements d'enfants, et qu'elle s'en servirait notamment pour leurs sacrifices sataniques, mais aussi pour des rituels encore plus sombres. Mais ça, j'en parlerai dans un prochain épisode. On se rend alors compte que la secte est présente partout dans le monde, et qu'elle a une influence dans tous les domaines, les médias, la politique, la finance, l'économie. On ne peut pas lui échapper. Elle est présente partout et domine le monde. Cela est très effrayant, vous ne trouvez pas? J'ai l'impression de dévoiler quelque chose qu'il ne fallait pas dévoiler, de mettre la lumière sur un sujet qui devait rester secret. J'ai déjà reçu des pressions depuis la création de mon podcast. Des épisodes ont été supprimés ou bien censurés. J'ai reçu des messages anonymes sur les réseaux sociaux pour me demander d'arrêter mes enquêtes, que je courais un grave danger. Mais avec la publication de cette nouvelle enquête, j'ai peur de recevoir des menaces encore plus fortes. J'ai vraiment le sentiment de faire des découvertes que je n'aurais jamais dû révéler. Si vous n'avez plus de nouvelles de moi dans les prochaines semaines, vous saurez ce qu'il s'est passé. En attendant, je continue mon enquête et je vais vous dévoiler la semaine prochaine de nouvelles découvertes, encore plus troublantes. Voudriez-vous que j'aille sur place à Disneyland en Californie pour enquêter moi-même sur ces étranges disparitions? Dites-le moi dans les commentaires. Après avoir exploré les catacombes interdites de Paris, la clinique du diable ou bien encore les stations de métro abandonnées, je me sens capable d'aller en Californie explorer ce parc. Ça ne me fait pas peur. De toute façon, au point où j'en suis, je ne peux pas faire marche arrière. Je vais aller jusqu'au bout de mes enquêtes. Alors donnez-moi de la force, soutenez-moi, abonnez-vous au podcast et partagez-le au maximum. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle enquête. Il y a quelques semaines, sur le dark web, j'ai découvert le témoignage terrifiant de la fille d'un des membres de la secte du diable. Elle raconte tous les malheurs qu'a subi sa famille après avoir rejoint la secte. Il semblerait qu'une étrange malédiction se soit abattue sur eux. Préparez-vous, dans quelques secondes, je vais vous raconter leur histoire. Prenez un instant pour vous abonner à notre podcast et activer les notifications pour recevoir les nouveaux épisodes. Venez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube pour retrouver du contenu exclusif. Cher lecteur, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Audrey, j'ai 20 ans. Avec ma famille, nous vivons dans une belle maison en banlieue parisienne, dans le 16e arrondissement. Je ne vous cache pas que nous sommes plutôt riches grâce à la situation de mon père. En effet, il est directeur général financier d'une grande entreprise française. Pour ne pas avoir de problème, je ne veux pas vous dire laquelle bien évidemment, mais je suis sûr que vous la connaissez, on en entend parler tous les jours. Il y a quelques années, quand j'avais 17 ans, j'ai appris que mon père avait rejoint un projet secret. Nous le savions, mais nous n'avions pas plus d'informations à ce sujet. C'était un sujet sensible dont on ne parlait pas. Il devait s'absenter au moins une fois par semaine, toute une journée. Nous ne savions pas où il allait exactement et ce qu'il faisait. Nous pensions que c'était dans le cadre de son travail, donc nous n'étions pas très inquiets. Au fil des mois, le comportement de mon père était de plus en plus bizarre. Il était distant avec nous, toujours plus agressif et stressé. Jusqu'au jour où il y a eu une grosse engueulade avec ma mère qui ne supportait plus ses absences et se demandait s'il n'avait pas une autre femme dans sa vie. C'est alors que nous avons appris toute la vérité, et ce fut un choc. Mon père faisait partie d'une secte, que lui appelait l'Assemblée. C'est assez bizarre dit comme ça, je le sais, mais pour lui, ce n'était pas véritablement une secte. C'était un regroupement d'intérêts entre personnes influentes qui se rendent des services dans le plus grand secret. Officiellement, c'était la raison d'être de ce rassemblement, mais pour moi, c'est une véritable secte. Car après ce que nous avons vécu et toutes les découvertes que nous avons faites à son propos, il n'y a pas d'autre mot pour définir cette chose. Après avoir découvert que mon père faisait partie de cette assemblée, la vie est devenue un peu plus sombre. Au fil des semaines, beaucoup de malheurs se sont abattus sur notre famille. Ça a commencé avec des petits incidents, sans graves conséquences. Mais avec la répétition de ces événements, cela devenait troublant. Ensuite, les malheurs ont commencé à devenir plus importants. Nous nous sommes fait cambrioler à plusieurs reprises. Notre chien est décédé tragiquement. Nous avons même été victimes d'un incendie dans notre maison. Tout a commencé à s'empirer et à devenir plus intense. Jusqu'au jour où le drame est arrivé. Je m'en souviendrai toute ma vie. Un matin, en me réveillant, j'ai découvert des traces de griffures sur tous les murs de la maison. À noter qu'à ce moment-là, nous n'avions plus d'animal de compagnie, donc je ne sais pas d'où ça pouvait venir. C'était très impressionnant. On aurait dit que quelqu'un ou quelque chose avait gratté tous les murs de la maison. Je vous avoue que nous n'étions pas rassurés. Dans un premier temps, nous pensons que nous avions été de nouveau victimes d'un cambriolage. Mais au fil du temps, par la répétition de ces événements très étranges et mystérieux, nous nous sommes posé des questions beaucoup moins conventionnelles. Dans un premier temps, c'est moi qui a commencé à faire des recherches sur le sujet. Je m'y connais un peu dans l'univers du paranormal car cela m'intéresse beaucoup. J'avais déjà regardé des reportages à la télévision. Je suis donc allé sur Internet pour me renseigner sur toutes ces manifestations étranges que nous vivions. On trouve de tout sur Internet. Difficile de savoir le vrai du faux parmi toutes les informations. Ça ne m'a donc pas beaucoup aidé. Ni rassuré d'ailleurs. jusqu'au jour où je suis tombé sur un site très étrange sur le dark web. Il parlait de l'existence d'une secte qui réunit toutes les personnes les plus importantes au monde, riches ou bien célèbres, politiques, artistes et plus encore. Il y est écrit que tous les membres sont liés entre eux par une sorte de malédiction et d'adoration d'un démon nommé Yahya. Tous les membres de cette secte gagnent en prospérité et en succès au détriment de leur vie de famille et de leur bonheur. En quelque sorte, ils vendent leur âme au diable. En échange d'un confort de vie matériel, ils donnent tout le reste. J'ai directement fait le rapprochement avec ce que nous vivions moi et ma famille depuis quelques mois et la situation de mon père au sein de cette secte. Je leur en ai parlé. Dans un premier temps, ils ne m'ont pas cru. Jusqu'au jour où une odeur de mort et de cadavre s'est emparée de la maison. C'était une véritable infection. Après avoir vérifié que ça ne venait pas des égouts ou des canalisations, je savais que d'après les croyances et légendes urbaines, cela signifie une présence démoniaque. À partir de ce moment, ma famille a commencé à me croire. On a donc demandé à mon père de quitter cette secte au plus vite. Malheureusement, ce ne fut pas aussi simple. Il était tout simplement impossible qu'il le fasse, car il est lié à jamais avec eux. Quand il les a rejoints, il n'était pas au courant de cette malédiction, d'avoir vendu son âme au diable. Il pensait simplement que c'était un groupe d'échange d'idées et d'influence. Ne pouvant quitter la secte, nous avons été obligés de fuir dans un autre pays au bout du monde. Comme nous avions beaucoup d'argent, nous sommes partis vivre au Brésil pendant quelques temps. Mon père avait beaucoup de contacts. Il a très vite retrouvé du travail là-bas. Nous pensions être tranquilles, que tout était terminé, mais la réalité nous a très vite rattrapés. Un jour, dans notre boîte aux lettres, nous avons reçu un bracelet rouge coupé en deux. En soi, ça n'avait pas beaucoup de sens dans l'absolu, mais en réalité, c'était très symbolique. Les membres les plus hauts de la secte portent ce bracelet en permanence sur leur bras gauche. Ça montre leur appartenance au groupe. Le fait que nous avons reçu ce même bracelet coupé en deux, cela signifie que mon père a rompu le pacte avec la secte. C'est un symbole très fort et terrifiant à la fois. Malheureusement, quelques jours plus tard, le drame se produit. Nous avons retrouvé mon père mort, dans des circonstances très mystérieuses, dans un hôtel à quelques kilomètres de la maison. Comme vous pouvez l'imaginer, ce fut un drame pour nous. Au-delà d'avoir perdu mon père, j'ai désormais peur que nous soyons surveillés et poursuivis par cette secte. Quelques mois après le drame, nous sommes retournés vivre en France, en région parisienne, avec ma mère et mon frère. Pour le moment, tout se passe pas trop mal. Nous n'avons plus de manifestations paranormales. Nous n'avons pas remarqué de problèmes particuliers. Nous n'avons pas reçu de menaces ou autre chose du genre. Je ne sais pas ce qu'il va se passer dans l'avenir. Peut-être que tout s'est terminé avec la mort de mon père. Que la secte s'est vengée de sa trahison et du fait qu'il voulait la quitter, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas confiante pour l'avenir. Et je voulais vous témoigner notre histoire pour que vous compreniez qu'il se passe des choses graves et terrifiantes sans que nous le sachions. Je ne manquerai pas de vous tenir informé à travers ce blog. Restez à mon écoute, on se retrouve très bientôt. Si vous n'avez pas de nouvelles, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Restez sur vos gardes et ouvrez grand vos yeux. Quand j'ai appris l'existence de la secte du diable, je pensais comme vous que ce n'était que des légendes, des rumeurs. Au fil des mois, je me suis rendu compte que c'était bien une réalité, qu'ils existent vraiment dans le monde entier. Je vous ai déjà raconté son organisation et son fonctionnement, mais je ne savais pas que j'allais faire une découverte qui allait changer ma vie à tout jamais. Quand je vous ai dit que cette secte était présente partout et qu'il fallait s'en méfier, je ne pensais pas si bien dire. Depuis tout petit, j'ai grandi dans un environnement très ouvert d'esprit, notamment sur les sujets religieux et paranormaux. J'ai moi-même vécu plusieurs expériences troublantes, vous le savez déjà. J'ai toujours cru en ce genre de choses, mais sans en avoir peur pour autant, car j'y étais habitué dès mon plus jeune âge. La raison ? Ma mère, bien sûr. Vous savez maintenant que ma mère pratique la sorcellerie, qu'elle a elle-même vécu beaucoup d'expériences étranges. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait un penchant pour la magie noire. Oui, vous avez bien entendu, la magie noire. C'est assez déroutant d'apprendre que sa propre mère fait ce genre de choses. J'avais déjà remarqué qu'il y avait beaucoup d'objets étranges à la maison, très anciens, qui semblaient tous avoir une signification occulte. Mais je ne m'étais jamais posé de questions. Jusqu'au jour où des amis sont venus à la maison. Ils m'ont tout de suite fait remarquer qu'il y avait quelque chose d'étrange. Ils ne voulaient plus revenir. Ils avaient peur. Pourtant, ma mère est une personne très gentille et très avenante. Mais le problème n'était pas là. Ils avaient tous ressenti une atmosphère très particulière dans la maison. Ils ne se sentaient pas les bienvenus. Ils pensaient tous que ma mère était une sorcière et ils ne croyaient pas si bien dire. Vous imaginez, c'est assez troublant quand on a 16 ans d'entendre ça de ses propres amis. À partir de ce moment, j'ai commencé à ouvrir les yeux petit à petit. Je faisais plus attention à tous ces petits détails du quotidien. J'ai fait des recherches sur la sorcellerie. Il y avait en effet beaucoup de correspondances avec ma mère. J'ai commencé à me poser des questions si toutes ces expériences paranormales que j'ai vécues depuis petit étaient simplement le fruit du hasard. Est-ce que ma mère a quelque chose à voir avec tout ça ? Je me suis alors mis à angoisser. Je me suis senti comme pris au piège. Comme si tout d'un coup, il y avait une force très puissante au-dessus de moi qui contrôle toute ma vie. J'ai d'excellentes relations avec ma mère. Je ne pouvais pas penser une seule seconde qu'elle cherche à me faire du mal. Après avoir fait des recherches au niveau de ma famille et discuté longuement avec ma grand-mère, j'ai appris qu'avant de me mettre au monde, ma mère avait du mal à concevoir un enfant. Après plusieurs années d'essais sans succès, elle a fini par avoir recours à la magie noire. Ma grand-mère m'explique qu'elle passait tous les dimanches après-midi à faire des incantations très étranges et terrifiantes qu'elle-même ne comprenait pas. Elle ne semblait pas le prendre au sérieux, jusqu'au jour où ça a marché. Elle est tombée enceinte de moi et quelques mois plus tard, je suis venu au monde. Je ne sais pas si elle a vraiment cru que c'était grâce à ses incantations, mais le fait est que quelques années plus tard, elle a recommencé. Dès qu'elle voulait obtenir quelque chose, c'était la même technique. Des prières en veux-tu en voilà, des incantations étranges, des symboles dessinés sur les murs du grenier, des objets aussi terrifiants les uns que les autres avaient envahi la maison. On était riches, on avait tout ce que l'on voulait, tout était parfait. Jusqu'au jour où la roue a tourné. En peu de temps, tout a basculé. La vie a commencé à devenir un véritable enfer. Mes parents ont divorcé. J'ai raté mes études. Nous avions de moins en moins d'argent. Tout était un échec. Les incantations de ma mère ne semblaient ne plus avoir d'effet. Bien au contraire. Plus elle en faisait, plus c'était pire. On aurait dit qu'on était victime d'une sorte de malédiction. C'était peut-être la conséquence de tout ça, de toute cette magie noire qu'elle avait faite auparavant. Le prix à payer en quelque sorte. Elle a vendu son âme au diable. Il vient se servir. Il lui a repris tout ce qu'il lui avait offert, faisant des victimes collatérales, comme moi. Quelques années plus tard, tout est rentré dans l'ordre. On aurait dit qu'il n'y avait plus de malédiction, que tout revenait comme avant, l'argent, la réussite, le bonheur. C'est justement à ce moment-là que ma mère a rejoint la secte du diable. Du jour au lendemain, elle n'était plus disponible les week-ends. Elle avait toujours des réunions et des rendez-vous mystérieux. Sur le moment, je ne m'étais pas trop posé de questions. Je pensais qu'elle fréquentait tout simplement quelqu'un. C'est aujourd'hui, avec du recul et de nouvelles découvertes, que je me suis rendu compte qu'elle fait partie de cette secte et qu'elle allait aux assemblées tous les week-ends. Mais pourquoi elle a fait ça, me direz-vous ? La tranquillité et la prospérité. Comme je vous l'ai déjà raconté dans les précédents épisodes, tous les membres de la secte ont, en échange de leur loyauté et de leur servitude, une protection pour eux et leurs proches. Cette protection concerne tous les domaines de la vie, l'argent, la santé, la réussite professionnelle. Ce sont toutes mes explorations, recherches et découvertes qui m'ont permis d'en arriver à cette conclusion. Ma propre mère fait partie de la secte, tout comme un autre membre de ma famille. Mais ça, vous le saviez déjà. Que va-t-il se passer ensuite? Elle ne sait pas que je suis au courant. Dois-je lui en parler? Qu'est-ce que je risque? Je pense que je devrais continuer à faire comme si je ne savais rien. J'ai l'impression de me retrouver piégé entre deux mondes différents. D'un côté, je cherche à combattre cette secte, mais de l'autre côté, ma famille en fait partie. Quel côté choisir? Quel camp rejoindre? Que feriez-vous à ma place? C'était un samedi pluvieux. J'avais mis mon réveil à 9h du matin. J'avais une journée bien chargée devant moi. Quelques petites choses à terminer pour le travail, des recherches à faire sur la secte du diable, et finalement, je devais retrouver la personne de ma famille qui était membre de la secte. J'allais lui poser quelques questions sur mes anciennes et nouvelles découvertes. Par souci d'anonymat, je ne souhaite pas divulguer d'informations sur la nature de mon travail, donc je ne détaillerai pas cette partie de la journée. 13h30, mon travail est terminé et il est temps d'entamer mes recherches. On sait que cette secte était constituée de fous et de criminels en tout genre et que sa création remonte au Moyen-Âge. Selon moi, les fous et les criminels à eux seuls n'auraient pas pu faire évoluer la secte jusque là où elle est maintenant. Donc j'ai décidé d'orienter mes recherches vers les personnes influentes qui pourraient ou qui auraient pu la diriger. Pour ce faire, je recherche les personnes qui ont été, du jour au lendemain, propulsées sur le devant de la scène, ou au contraire, qui ont disparu dans des circonstances inexpliquées. Ce soir, je pourrais croiser mes données avec celles de mon contact. Est-ce vraiment l'œuvre de la secte, ou alors ces personnes étaient-elles juste là au bon endroit au bon moment ? Plongé dans mes recherches, je ne vois pas le temps passer. La seule chose qui me décroche de ces dernières est un appel de mon rendez-vous pour confirmer l'heure de mon arrivée. On convient pour une heure et un endroit. 19h30 dans un bar à 15 minutes de chez moi en plein milieu de Paris. J'arrive quelques minutes en retard. J'étais vraiment absorbé par mes recherches, mais il ne m'en tient pas rigueur. On s'échange quelques banalités et puis je commence à lui poser mes questions. J'avais plusieurs pistes à suivre. Des hommes d'État avec un passé douteux. Des personnalités publiques sorties de nulle part du jour au lendemain. De grands industriels inconnus de tous, mais pourtant à la tête des plus grandes entreprises. Tous semblent avoir un lien entre eux. Cela faisait plus de 5 ans que, après une soirée bien arrosée, je n'ai plus goûté à une seule goutte d'alcool. Mon rendez-vous m'avait prévenu que ces réponses seraient toutes plus invraisemblables les unes que les autres, mais qu'elles restaient néanmoins vraies et que pour les digérer, il vaudrait mieux que je prenne un verre. Les questions fusaient et les réponses faisaient de même. À vrai dire, j'en ai eu plus de ce à quoi je m'attendais. Et c'était plutôt agréable que, pour une fois, j'ai des réponses à mes questions. Plus le temps passe, plus je sens que je suis pris d'un mal de tête infernal. Ma vision se trouble et j'ai du mal à articuler. Serait-ce l'effet d'un petit verre de whisky ? Il est vrai que, fut un temps, je tenais assez bien l'alcool. Mais peut-être que ces 5 ans de sobriété m'avaient finalement guéri de ces vieilles mauvaises habitudes. La personne avec moi, voyant que je ne me sens pas bien, décide de m'accompagner chez moi. Mes souvenirs d'après sont brumeux, mais la seule chose dont je suis sûr, c'est de m'être endormi dans un taxi. Je me réveille, traîné par 2 personnes en robe blanche. J'entends comme chuchoter au loin dans une langue étrange, que jusque-là, je n'avais jamais entendue. Un mot récurrent revient au début de chaque phrase. Yaya. Dès que j'ai entendu ce nom, j'ai su qu'il me fallait agir. Mon instinct de survie prit le dessus sur ma curiosité. Je me débattais essayant de me libérer, mais sans succès. Je n'ai réussi qu'à m'écorcher le genou droit. J'ai perdu connaissance une première fois. Cette fois, en me réveillant, je suis au milieu d'un dessin rouge sur le sol que je reconnais comme étant un pentagramme. On m'avait mis une robe rouge. Je regarde autour de moi, ça ressemble au village à côté de l'hôpital psychiatrique abandonné. Souvenez-vous, dans la forêt où je me suis retrouvé après le terminus interdit du métro. Je suis entouré de ces hommes en robe blanche. Ils chantent. C'est un rituel satanique. Mon cœur s'emballe. Il bat tellement que je le sens sortir de ma poitrine. J'ai du mal à respirer. Je ne sais pas quoi faire. Les idées se bousculent dans ma tête. Mais une seule question se pose. Comment fuir ? Je me débats. Je crie à l'aide, mais là encore, en vain. Deux hommes sont devant moi en robe noire. Je pense que c'est eux qui président ce rituel. Ils se disputent. L'homme qui parle a un fort accent, mais je ne reconnais pas l'origine. Une chose est sûre, il n'est pas français. Comme je le pensais, cette secte est internationale. L'un des deux dit que je suis trop âgé pour être sacrifié. Je n'ai pas le temps d'être soulagé car l'homme se dirige directement vers moi, pose sa main sur ma tête et dit des mots bizarres. Je n'en distingue que très peu. Du, air, gel, guden, yaya. Je soupçonne que c'est du latin. Après avoir entendu ces mots, je perds conscience une deuxième fois. Je me réveille en sueur chez moi. Je ne sais pas si ce n'était qu'un cauchemar ou était-ce la réalité. Je regarde sur mon téléphone l'itinéraire que j'ai parcouru en rentrant. Aucun détour. Mais j'ai bel et bien une écorchure sur le genou droit. Je dois trouver le fin mot de cette histoire. Les jours passent et je ne sais toujours pas ce qu'il en est. Je n'ose pas demander à la personne avec qui j'étais, de peur d'être pris pour un paranoïaque. Un soir, en rentrant chez moi, je trouve une enveloppe sous la porte. Dedans, il y a une clé et une lettre. Selon cette lettre, il y aurait quelqu'un qui connaît l'existence de la secte et qui souhaite avoir mon aide pour mettre en lumière ses agissements. Une adresse est écrite sur le dos de la lettre. Muni de mon équipement d'urbex et de mon courage, je décide de me rendre à cette adresse. C'est un studio en périphérie de Paris. Je pense que la personne s'en sert comme base pour effectuer ses recherches sans éveiller de soupçons, car il y a un ordinateur portable, une imprimante, un tableau avec des noms et des photos reliées entre elles avec un fil. Je me sens comme dans un film, sauf que là, c'est la réalité. J'ai affaire à de vraies personnes et à de vrais crimes. Je reconnais quelques-unes des personnes sur le tableau, des célébrités, des hommes politiques, des grands patrons d'entreprise. Une femme est assise devant le PC, mais elle se retourne dès que j'ouvre la porte. Elle a la trentaine, des cheveux courts et bruns et des yeux marrons avec un regard froid qui laisse tout de même transparaître une once de fragilité. Après quelques secondes de silence gênant, elle brise la glace et on se présente. Comme toujours, je ne citerai pas son vrai nom pour préserver son anonymat, mais nous allons l'appeler Claire. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle m'a donné son vrai prénom. Elle m'explique que c'est la mère d'un des enfants disparus qui ont été vraisemblablement sacrifiés et que depuis sa mort, elle cherche un moyen de faire payer la secte pour leurs crimes. Aussi, après ses premières découvertes, elle s'empressa d'aller tout raconter à la police, mais ils ne l'avaient pas prise au sérieux. Qui irait croire qu'une secte qui vénère un démon contrôle le monde et sacrifie des enfants ? Ce qu'elle me dit aussi, c'est que le jour même, en rentrant chez elle, elle s'était faite agresser par deux inconnus et a vite compris que c'était un message pour qu'elle arrête ses recherches. Je pense que c'est la même chose qui m'est arrivée dans ce rituel. C'est à se demander si la police n'était pas complice. Pour la première fois, je sens que j'ai vraiment quelqu'un en qui je peux croire et qui a aussi le même but que moi. Avoir le plus d'informations possible sur cette secte. Mais puis-je vraiment lui faire confiance ? Ne serait-ce pas une autre ruse de cette secte pour juste découvrir ce que je sais sur eux ? Avec ces questions dans ma tête, j'ai mis des réserves quant au fait de lui dévoiler tous les fruits de mes recherches, et contre toute attente, elle comprend tout à fait mon choix et décide de juste me donner les informations qu'elle a trouvées au fil de ses recherches. Selon elle, la secte serait originaire de Norvège. Elle avait retrouvé des rapports de police sur des corps d'enfants mutilés, des rassemblements dans des forêts la nuit, et des fous qui disparaissaient mystérieusement d'hôpitaux psychiatriques. Ces rapports de police remonteraient au début du XXe siècle, Et le moins que je puisse dire, c'est que tout ça concorde avec les informations que moi-même j'ai pu trouver. Par exemple, l'accent de l'homme pendant le rituel était un accent norvégien, et il en va de même pour les mots qu'il avait dit que je croyais être du latin. Elle m'a proposé de partir avec elle dans une expédition en Norvège dans des hôpitaux abandonnés, pour voir si on y trouve quelque chose d'intéressant. Au point où j'en suis, je ne vois pas de raison de décliner cette offre, parce que cette secte m'a atteint. Je me rends compte que le cauchemar était bien réel, ce qui veut dire que j'ai échappé de peu à la mort. Je ne souhaite à personne d'être dans la même situation que moi, et pour cela, il faut que les agissements de la secte du diable cessent pour de bon. Pensez-vous que je dois aller avec elle en Norvège? Est-ce que je prends un risque? Qu'en pensez-vous? Dites-le-moi dans les commentaires. J'attends vos retours et avis sur mes expériences et explorations. Je suis également à votre écoute si vous avez des informations sur la secte. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode plein de surprises.